Saviez-vous que l'autre histoire de Genève, une chronique insolite présentée par Carlo Ruexeger.
Saviez-vous que Genève et son histoire offrent souvent un parallélisme étonnant avec notre vie actuelle? L'adage qui dit que l'histoire se répète n'est pas qu'une formule. Un exemple intemporel est celui de la condition de la femme dans ce XVIIe et XVIIIe siècle. La genevoise de l'époque était confrontée, comme de nos jours, mais sous d'autres formes, il n'y avait pas encore de micro-ondes, à toutes les tâches domestiques. La vie quotidienne des femmes du populaire était rendue pénible et très physique. L'inconfort des maisons, la salubrité toute relative, l'eau était précieuse et puisée dans les fontaines publiques. Cette eau était nécessaire aux tâches ménagères et domestiques, le ménage, les lessives, la boisson, l'hygiène, la cuisine, bref. Ces maisons, aux escaliers raides et mal commodes, demandaient de sérieux efforts et de nombreux allers-retours afin de pouvoir fournir une réserve, souvent conservée dans des toupins, de terre cuite ou de broc. Aux fenêtres, le papier huilé faisait office de vitre, l'éclairage aux chandelles et les lieux d'aisance, rares, souvent hors d'usage, et sur le palier, bref, le cloaque. Il faut y ajouter les soins prodigués aux enfants et aux malades. Comme de nos jours, en plus de ces corvées, les femmes en grand nombre se trouvaient sur le marché du travail, le revenu des hommes n'étant pas suffisant pour loger et nourrir sa famille. On retrouvait notamment les femmes aux emplois les plus divers, dans le giron de l'hôpital, les soins, le nettoyage, les cuisines, etc. Souvent employées aussi dans les ruraux pour les travaux de cueillette, de ratissage de foin, d'épandage, de transport de bois et leur aide aux travaux des fortifications. Bien présentes aussi, les femmes œuvraient dans l'industrie textile de la soie, de la laine et du chanvre. On comptait 8 à 10 personnes pour qu'un tisserand puisse être en mesure d'accomplir sa tâche. Il existe toutefois d'autres domaines où certaines femmes remplissaient d'autres fonctions pour le bien public. Certaines revendaient les produits frais de la campagne, tenaient des débits de boissons et d'auberges, des fripières. Les femmes dans ces domaines commerciaux et indépendants eurent tendance à prospérer et irritèrent parfois les autres marchands. Les autorités, pour mieux les contrôler, les soumirent à une patente. Quant au MLF, il n'en était pas encore question. C'est pour bien plus tard, mais c'est une autre histoire. Saviez-vous que Genève, au XVIIe siècle, les affaires commerciales ou autres entreprises n'étaient pas seulement le précaré de la gent masculine? Il suffit de relater l'une des femmes les plus célèbres de Genève, nommée Élisabeth Beaulacre, née le 15 septembre 1613 et baptisée à Saint-Gervais le dimanche 26 du même mois. Sa carrière est toute tracée. Élisabeth arrive au monde à l'aube de l'expansion économique de la République. Son milieu social sera sans aucun doute un atout pour son avenir. Elle est descendante des fameux Pellizzari, pionniers de l'industrie et du commerce de la soie à Genève. Et du côté paternel, les Beaulacre, artisans et marchands. Vous l'aurez compris, son ascendance directe est issue de réfugiés pour cause de religion, venant d'Italie, quant à sa belle famille, de France. Élisabeth se retrouvera veuve accompagnée de son fils Pierre, qu'elle élèvera seule. Son intérêt commercial se pose sur les métaux précieux, or et argent. Elle reprend la manufacture familiale et commerce de dorures. Élisabeth y intéressera très tôt son fils, dont elle en fit son associé. Mais Pierre s'intéressera à d'autres activités, telles que le rôle d'auditeur, de conseiller et devint syndic. Sa mère se retrouva pratiquement seule à mener la barque. Pierre l'assistait en tant que conseiller ou d'autres aspects secondaires de la manufacture. Élisabeth donc tenait la baraque. Elle traitait directement avec ses ouvriers, ses artisans, les débiteurs, les notaires et les marchands. Contrairement à la plupart des femmes d'affaires des siècles passés, Élisabeth Beaulacre ne se borne pas à continuer dans une voie toute tracée par héritage. Bien au contraire, elle montre des qualités exceptionnelles d'entrepreneur en développant son énergie, sa prise d'initiative et même d'esprit d'invention. Son affaire modeste autour de 1640 prend un développement extraordinaire dans la deuxième moitié du siècle. La manufacture du début devint une fabrique dont sa production fut reconnue comme un des grands atouts économiques de Genève. La matière première, or et argent, monnayée ou non, vrai ou faux, était fournie par les marchands banquiers en relations commerciales avec Amsterdam, Londres, Gênes, Marseille. Élisabeth a marqué son époque pour sa pugnacité et sa vision déjà moderne du marché. Quand elle meurt en 1693, elle laisse à son unique héritier une des fortunes les plus considérables de la République. D'autres femmes remarquables traversèrent les siècles, mais c'est une autre histoire. Saviez-vous que la manière de voyager au XVIIe siècle laissa des traces à Genève sur le passage des étrangers érudits qui se rendaient de ville en ville, non pour commercer ou autre activité, mais pour aller à la rencontre des hommes cultivés, savants ou initiés. L'arrivée à Genève, comme Théodore Plater en 1603, il commente ainsi la vision qu'il reçoit de Genève. Il n'y a autour de la ville, sur une surface d'environ 3 km, ni maisons, ni arbres ou futaies, entre marais et jachères, avant d'atteindre les remparts. À l'époque, il n'y avait que 3 portes pour entrer dans la cité. Cornavin, Neuve et Rive. Les voyageurs sont alors interrogés sur leur provenance, leur identité, d'où ils venaient et où pensaient-ils s'installer. C'est grâce à ces transcriptions écrites que nous pouvons aujourd'hui consulter les documents encore existants. Les gardes ne laissaient entrer, par en visa, celui qui avait déjà une adresse où se rendre, une auberge, un particulier, etc. Le choix des auberges, par exemple, se fait souvent par affinité avec son lieu d'origine. L'hôtel de l'Ours à Longemal reçoit plutôt les hôtes d'origine germanique, car on les y comprend. La tour de Perse, la rue des Allemands, où les Bernois sont accoutumés à loger. Le Lion d'Or, situé près du Rhône, qui était construit sur ce qui est de nos jours le passage des Lions, lui recevait ambassadeurs de Russie, de Perse ou de Venise. L'offre d'hébergement à Genève était pour l'époque déjà bien fournie. Il faut citer entre autres l'écu de Genève, les balances, les trois rois, la rose d'or, d'autres plus modestes comme le croissant au bourg de four, le logis de la pomme. On dirait que depuis toujours, Genève reste une ville de transit. Mais c'est une autre histoire.
Bientôt, d'autres histoires.